Il ne quittait que l'université, même si des années durant, écriture et enseignement n'avaient fait qu'un constituant toute sa vie d'adulte. Et puis l'un de ses étudiants s'était impliqué dans son voyage jusqu'à faire une OPA dessus. Cet ancien élève, Clark French, avait en effet pris en main au point de la faire sienne la mission à Manille que Juan Diego envisageait depuis des années. Il s'en était chargé avec l'assurance peut-être excessive qu'il manifestait dans son écriture, pensait Juan Diego. Pourtant, ne voulant pas blesser Clark, il n'avait opposé aucune résistance à cette ingérence pavée de bonnes intentions. De plus, voyager lui coûtait beaucoup d'efforts, et il s'était laissé dire que les Philippines n'étaient pas de tout repos, qu'il y avait même des coins dangereux. Cette planification minutieuse, à l'excès, aurait du bon. C'est ainsi qu'en un clin d'œil, un véritable voyage organisé avait pris forme. Sa mission à Manille s'était ramifiée en excursions annexes et aventures plus ou moins dilatoires, au point qu'il redoutait d'avoir compromis son propos initial. Mais Clark French n'aurait pas manqué de justifier son propre zèle par l'admiration. Le voyage rêvé de si longue date était dicté par une noble cause. Dans sa prime adolescence à Oaxaca, Juan Diego avait en effet rencontré un objecteur de conscience américain, un pacifiste ayant fui son pays pendant la guerre du Vietnam pour échapper à la conscription. Le père de ce jeune homme comptait parmi les milliers de soldats américains tués aux Philippines lors de la Seconde Guerre mondiale, même s'il n'était pas mort pendant la marche de Bataan, ni dans l'ardeur de la bataille pour reprendre l'île de Corregidor. Le jeune américain fuyant la conscription refusait de mourir au Vietnam. Il voulait visiter le cimetière américain de Manille et le mémorial pour rendre hommage à son père. Or, il n'avait pas survécu à son exil au Mexique, et il était mort à Oaxaca, si bien que Juan Diego avait fait le serment d'accomplir le voyage à sa place. Pourtant, il n'avait jamais su le nom du jeune pacifiste qui s'était lié d'amitié avec lui et sa petite sœur, soi-disant retardée mentale. Lupe et lui l'appelaient El Gringo Bueno, le brave gringo, et l'avaient rencontré avant que Juan Diego ne devienne infirme. D'emblée, il leur avait paru trop sympathique pour mal finir, alors que Rivera le traitait de hippie mescalisé. Car telle était l'opinion du préfet sur les hippies américains qu'on voyait arriver dans leur ville à cette époque-là. Il considérait ceux qu'il appelait les mangeurs de champignons comme de parfaits abrutis prétendant chercher quelque chose de profond, mais que lui jugeait aussi grotesque que de croire que tout est dans tout. Les enfants savaient toutefois qu'il était pour sa part attaché au culte marial. Quant aux hippies mescalisés, il les tenait pour plus malins, mais suicidaires. Selon lui, ils avaient tendance à fréquenter les prostituées. Leur brave gringo se tuait à petit feu sur la calle Saragossa. Les enfants espéraient qu'ils se trompaient, car ils n'auraient pas voulu que leur ami si cher se laisse détruire par sa libido ou par le breuvage enivrant tiré du jus d'agave fermenté. « Ça revient au même », avait sombrement commenté Rivera. « Croyez-moi, ça n'a rien d'exaltant tout ça, au bout du compte. » Entre les femmes de mauvaise vie et l'abus du mescal, pour finir, tout ce qui reste, c'est un petit verre au fond. Juan Diego savait qu'il parlait du verre au fond de la bouteille de mescal, mais selon Lupe, il se référait à son sexe quand il sortait de chez les prostituées. « Toi, tu te figures que les hommes ne pensent qu'à leur sexe », avait lancé Juan Diego à sa sœur. « Parce qu'ils ne pensent qu'à ça », avait répondu la petite médium. En somme, telle était la limite de l'adoration qu'elle vouait au gringo. Le malheureux Américain avait franchi une ligne imaginaire, celle du sexe peut-être, encore que Lupe ne l'aurait jamais formulée de cette façon. Un soir que son frère lui faisait la lecture, Rivera se trouvait avec eux à la bicoque, et il écoutait lui aussi. Sans doute était-il en train de fabriquer une nouvelle étagère, à moins que le barbecue n'ait nécessité une réparation. Peut-être était-il seulement passé voir si Blansal, alias Revient de loin, était mort. Ce soir-là, Juan Diego lisait un autre spécimen de grimoire universitaire abscon voué au bûcher par le père Octavio ou le père Alfonso. Cette œuvre obscure avait été écrite par un jésuite, et elle portait sur un sujet historico-littéraire. C'était une analyse de la lecture que faisait D.H. Lawrence de Thomas Hardy. Dans la mesure où le lecteur de la décharge n'avait jamais rien lu de D.H. Lawrence ni de Thomas Hardy d'ailleurs, ce compte-rendu savant aurait eu de quoi lui demeurer hermétique même en espagnol, mais ce livre-là était écrit en anglais. Langue dont il voulait pratiquer la lecture davantage, alors même que son auditoire, réduit à Lupe et El Jefe et pas franchement sous le charme, l'aurait, à tout prendre, mieux compris en espagnol. Pour tout arranger, plusieurs pages du livre avaient brûlé, et il dégageait en outre une infecte odeur d'ordure. Blansal cherchait tout le temps à le renifler. Revient de loin ne plaisait pas davantage au patron de la décharge qu'à Juan Diego. Celui-là, t'aurais dû le laisser dans son carton de lait, disait-il à Lupe, qui prenait toujours la défense du chiot avec indignation. C'est alors que Juan Diego leur lut un passage abracadabrant sur les liens qui unissaient tous les êtres. Attends, attends, arrête-toi, avait coupé Rivera. C'est de qui cette idée? C'est peut-être de celui qui s'appelle Hardy, répondit Lupe, à moins que ce soit du dénommé Lawrence, ce serait bien de lui. Après que Juan Diego eut traduit, El Jefe ajouta son grain de sel. À moins que ce soit de celui qui a écrit le bouquin. Lupe acquiesça. Ce bouquin était barbant et opaque à la fois, pinaillant sur des questions défiant tout traitement concret. C'est quoi ces liens qui unissent tous les êtres d'abord? Demanda Rivera. Quels êtres? On croirait que ça sort de la bouche d'un hippie qui aurait mangé trop de champignons. Cette exclamation fit rire Lupe, qui riait rarement. Bientôt, elle et Rivera s'esclaffaient de concert, ce qui était encore plus rare. Juan Diego se rappellerait toujours le bonheur qu'il avait éprouvé à les entendre. Or, voilà que tant d'années plus tard, 40 rien que ça, il s'embarquait pour ce voyage aux Philippines en mémoire de feu le brave gringo sans nom. Pourtant, pas un seul de ses amis ne lui avait demandé comment il comptait rendre hommage au père tombé au champ d'honneur et n'ayant pas plus de nom que son fils. C'est qu'ils savaient tous que Juan Diego était romancier. Peut-être entreprenait-il ce voyage à titre strictement symbolique. Au début de sa carrière, il avait beaucoup bougé, et le déphasage lié aux pérégrinations comptait parmi ses thèmes de prédilection, particulièrement au fil de ce roman situé en Inde dans le monde du cirque, celui qui avait un titre pachydermique. Il se souvenait avec attendrissement que personne n'avait pu le dissuader de son choix. Une histoire déclenchée par la Vierge Marie. Vous parlez d'un titre à rallonge? Pour une histoire elle-même incroyablement longue et rocambolesque. C'est peut-être l'intrigue la plus complexe que j'ai écrite, se disait Juan Diego, tandis que la limousine parcourait les rues désertes d'un Manhattan enclavé par la neige, et s'avançait résolument vers FDR Drive. C'était un monospace et le chauffeur n'avait que mépris pour les autres voitures et les autres conducteurs. Les voitures, car mal équipées et sans pneus adaptés, les conducteurs, car incapables de conduire dans la neige. Où tu te crois, connard, en Floride? Hurla-t-il par la fenêtre à un malheureux automobiliste qui avait dérapé sur le côté et bloqué une rue étroite. Lorsqu'ils s'engagèrent sur FDR Drive, un taxi était passé par-dessus la glissière de sécurité et s'était enfoncé jusqu'à mi-corps dans la neige du sentier des joggeurs qui longeait l'East River. Faute de pelle, le chauffeur tentait de dégager les roues arrière en se servant de son essuie-glace. D'où tu viens, pauvre con, du Mexique? Lui gueula le chauffeur de la limousine. Moi, en tout cas, j'en viens, dit Juan Diego. Je parle pas de vous, monsieur. Vous allez y arriver à temps à JFK. Mais une fois là-bas, vous serez pas plus avancé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit rien voler. De fait, Juan Diego n'avait rien remarqué. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était se trouver à l'aéroport, prêt au départ, quand son vol décollerait. Le retard, si retard il y avait, il s'en fichait. Mais il n'était pas question de manquer ce voyage. Derrière chaque voyage, il y a une raison. Se surprit-il à penser, avant de se souvenir qu'il s'agissait d'une phrase qu'il avait déjà écrite et affirmée avec beaucoup d'insistance dans la fameuse histoire déclenchée par la Vierge Marie. Et me voilà reparti aujourd'hui, se dit-il. Il y a toujours une raison. Le passé l'entourait comme des visages dans une foule. Parmi eux, il y en avait un qu'il connaissait, mais lequel? L'espace d'un instant, dans ce linceul de neige, intimidé par ce chauffeur mal embouché, il avait également oublié être l'auteur de ce passage. La photo bêta-bloquant. À en juger par ses propos, le chauffeur était grande gueule et haineux. Mais ces deux caractéristiques ne l'empêchent